Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 1er. On va prendre verset 21. Et j'aimerais ce matin qu'on observe un peu la parole de Dieu ensemble. Et si on pouvait donner un titre ou bien un sujet, aujourd'hui ce serait le salut de l'âme et du corps. Alors la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on a partagé au sujet de la nouvelle naissance. En fait, on a vu qu'essentiellement la nouvelle naissance, c'était une naissance spirituelle. On a vu que lors de la nouvelle naissance, Dieu créait ou bien recréait notre esprit pour que nous puissions être en communion avec lui. On a vu que nous devenions une nouvelle créature. Désormais, selon 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, on a vu que ce qui se passait, qu'on était déclaré juste par Dieu à la nouvelle naissance, parce que désormais, nous nous mettions au bénéfice du sang de Christ, qui avait déjà accompli notre rédemption le jour de la croix, mais qui devient efficace pour nous personnellement le jour où nous naissons de nouveau. Et nous avions vu également que nous devenions désormais enfants de Dieu. Hein, ça, c'est un petit peu globalement ce que nous avons observé. Et ce que nous avons vu, c'est que naître de nouveau, eh bien, ça ne demandait pas un grand nombre de choses. Ça demandait simplement, d'une part, la repentance, et ça demandait notre foi. La parole de Dieu déclare « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et plusieurs fois, il dit « C'est par la foi en Christ ». Et l'Épître aux Romains déclarait que c'est en croyant du cœur que Christ est ressuscité entre les morts que tu seras sauvé. Et il dit « Crois du cœur et confesse de la bouche et ainsi tu parviens à la justice et au salut ». Je paraphrase, mais c'est Romains 10, versets 9 et 10 qu'on avait observé ensemble. Et gloire à Dieu, la parole de Dieu, comme je le dis toujours, est efficace et elle a fait son effet. Et vendredi soir, on a eu la joie dans notre réunion de partage d'avoir un frère qui était là dimanche et qui n'en pouvait plus tellement la parole de Dieu l'avait touché et qui a dit « Je ne peux plus attendre, il faut que je naisse de nouveau ». Qu'on a eu la grâce de prier avec lui et on croit qu'il est né de nouveau et qu'il a pris le chemin. Il s'est désigné tout seul, c'est notre frère Gabriel. Vraiment, on rend grâce au Seigneur pour lui. Et on a dit que bientôt on serait sur la plage puisque la suite logique c'est le baptême, qui est le témoignage visible de ce qui s'est passé aussi spirituellement. Donc, nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est essentiellement spirituel, et qu'en fait, notre esprit donc, a été recréé pour être conforme à la volonté de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour être en communion avec lui. Mais je vous rappelle ce que j'avais montré dans la parole, c'est que nous sommes constitués d'un esprit, une âme et un corps. Et vous avez montré que la bonne manière de comprendre les choses, c'est de dire « je suis un esprit, j'ai une âme, qui est notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre intelligence, et je vis dans un corps ». Ça, c'est le point de vue biblique sur notre constitution, si on peut dire ça comme ça. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de l'esprit, qu'est-ce qui se passait pour votre esprit, la nouvelle naissance, mais on pourrait se demander « mais alors l'âme et le corps, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et traditionnellement, on a tendance à dire de prier pour l'âme de quelqu'un, ou quoi. On va voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet du salut de l'âme, et j'ai même rajouté du corps. Alors, on sait que le corps c'est quelque chose de temporaire pour cette terre, mais permettez-moi de vous montrer, et on va le voir ensemble dans la parole, que même pour notre corps, Dieu a prévu un plan de salut. Et même si ce corps est amené à vieillir, à se dégrader et finalement à mourir, la pensée de Dieu, c'est que le fait que notre esprit soit né de nouveau amène aussi une transformation et une forme de salut à notre âme, c'est-à-dire notre personnalité, et même à notre corps. Alors tout ça, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde un petit peu aujourd'hui ensemble, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu. Donc pour démarrer, on va prendre l'épître de Jacques, chapitre 1er, je pense que vous avez trouvé entre-temps, et au verset 21, si quelqu'un a besoin d'une Bible, il y en a quelques-unes à prêter. Faites un signe, ça va, tout le monde est équipé. Ok. Jacques, chapitre 1er, verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Qui peut sauver vos âmes. Donc ici, on voit clairement que notre âme a besoin d'être sauvée. S'il nous dit que la parole peut sauver nos âmes. Et là, directement, il nous donne comment procéder. Eh bien, recevoir avec douceur la parole. Donc, nous devons recevoir la parole, la recevoir avec douceur, ce qui signifie de ne pas y résister, de ne pas nous y opposer, mais de la recevoir simplement. Et puis, il dit la parole qui a été plantée en vous. Et quand on parle de planter, ben là, il y a une notion simplement de semence ou de récolte. Enfin, quand vous plantez quelque chose dans le jardin, il y a un processus. Vous ne vous contentez pas seulement de passer là et de dire « Tiens, j'espère que demain je vais récolter soit des ignames ou des fruits ou autre chose. » Comme ça. D'accord ? Si vous voulez récolter quelque chose, à un moment donné, vous allez planter. Mais pour planter, il ne suffit pas seulement de déposer la semence par terre. Hein ? Planter, je pense que vous avez tous un jour planté quelque chose, mais il ne suffit pas de le déposer. Planter, hein, il y a une notion de, il faut creuser, il faut aller fouiller, mettre la semence, et puis bon, ensuite on recouvre, on arrose. Mais déjà à la base, planter, il y a un travail à faire. Et quand il est question de planter la parole de Dieu en nous, eh bien, il ne suffit pas seulement que de l'avoir entendu comme ça, ou que de l'observer de manière un petit peu superficielle. Si nous voulons que la parole puisse faire l'œuvre de salut de notre âme, eh bien nous avons besoin que la parole soit plantée en nous. Alors comment planter la parole? D'après vous, comment planter la parole en nous? En la lisant, oui. Une autre manière de planter la parole en vous, selon vous? D'accord. En la gardant. Oui, en la méditant. Ok, tout ça c'est juste, ça participe. Et en la mettant en pratique aussi, tout à fait, c'est la suite de ce que Jacques dit. Donc planter la parole en nous, effectivement, d'abord il faut déjà au moins la lire, mais planter la parole, déjà il faut aller chercher. Hein. Si vous voulez planter un fruit, un légume ou une plante ou quelque chose, vous vous arrangez pour trouver la semence quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Et d'ailleurs, la parole se définit elle-même comme étant une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la parole elle-même se définit comme une semence. Donc si vous voulez planter, vous cherchez la semence. Avant de pouvoir planter la parole dans vos cœurs, il faut que vous la preniez déjà entre vos mains, que effectivement vous la lisiez. Une autre manière, ça peut être lorsqu'on a des rencontres comme celle-ci, soit le dimanche, ou même avec des bien-aimés frères et sœurs en dehors, de pouvoir partager sur la parole de Dieu pour qu'elle vienne effectivement habiter nos cœurs. Et puis, il y a cette notion que notre sœur a soulevée qui est la méditation de la parole de Dieu. Et je vous invite à aller avec moi dans Josué chapitre 1er. On va observer plusieurs paroles de l'Écriture ce matin pour appuyer tout ce qu'on va être amené à dire. Donc Josué, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 1er. Et au verset 8, on voit là une instruction qui est donnée à Josué. Au moment où il devait prendre la suite de Moïse à la tête du peuple, et Dieu s'adresse à lui et va lui donner plusieurs instructions, y compris ce verset 8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Et je vous invite tout de suite, en ayant à l'esprit ce qui vient d'être lu, à regarder dans le psaume 1er. Psaume 1. Vous allez voir, vous allez tourner les pages ce matin. Et c'est bien d'être bien bien ancré dans la parole. Psaume 1er, je vais faire un petit raccourci, mais le verset 1er dit « Heureux l'homme !» Ensuite, il y a des instructions qui sont données. Et au verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc là, on peut se permettre de dire qu'on a à peu de choses près la même parole qui nous est donnée à deux endroits différents. Donc ça nous permet de dire déjà que ce n'était pas réservé à Josué seul, mais que ça nous concerne aussi, et que ça s'adresse, c'est une instruction de Dieu à son peuple. Alors, lorsqu'il est question de la loi de l'Éternel, bon, rappelez-vous qu'à cette époque-là, il n'avait pas grand-chose comme Bible. Hein, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient que la loi que Moïse avait reçue sur ces tables, et celle-ci était pour eux la parole de Dieu. Et même plus tard, dans le Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament, mais qui représentait pour eux la parole de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons une Bible plus complète, et qui, elle, représente en fait la parole, ou la loi, ou la voix de Dieu dans notre vie. Et nous devons donc méditer sur ces choses. Alors ceux qui sont avec nous le vendredi ont un peu d'avance pour répondre à ça, mais selon vous, c'est quoi méditer ? C'est quoi méditer ? Comment vous comprenez ça, méditer la parole ? Comment, c'est quoi ? Ça veut dire quoi pour vous ? Pardon ? D'accord, approfondir.
C'est ma manière. C'est comme un murmure ?
Oui, ça peut. Ça peut être comme un murmure. Hein. En fait, méditer, littéralement, le terme, c'est un terme qui englobe l'idée de ruminer. Hein. Si vous regardez les vaches ou les bœufs, vous voyez qu'ils sont là en train de... Ils mâchouillent, ensuite ils ravalent et ils recrachent. Et ils remâchent encore un coup, ils ravalent, ils recrachent. Et il y a cette idée-là qui nous est transmise dans l'idée de méditer. Donc, méditer la parole, ça, c'est plus que seulement la lire ou l'entendre. C'est la lire, l'entendre, d'accord ? Et maintenant, la mastiquer, si on veut, la mâcher. Alors bien sûr, ce n'est pas physiquement, mais c'est-à-dire la repasser dans nos pensées, dans nos cœurs. Pourquoi pas se la répéter ? C'est pour ça que quand tu dis murmurer, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Se la répéter jusqu'à ce que ça commence vraiment à nous habiter, à provoquer quelque chose à l'intérieur de nous. Hein ? Et ça, c'est ce que veut dire méditer la parole ou bien planter la parole en nous. Ce n'est pas uniquement comme ça, regarder la parole et dire « oui, je lis ma Bible tous les jours ». Mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Et je ne veux pas faire le procès des gens, mais parfois je rencontre des chrétiens qui me disent « moi, ça fait combien d'années que je suis chrétien ?» Et puis je connais la parole, mais si vous les prenez entre guillemets au dépourvu, à dire « tiens, qu'est-ce que… » je sais pas, ou bien vous les prenez à partager de la parole avec eux, c'est comme s'ils étaient perdus. Ils disent « il faut que je me prépare d'abord pour pouvoir dire quelque chose ». Mais en principe, si vous avez cet exercice de méditer la parole et de la planter en vous, eh bien, à un moment donné, il est assez aisé aussi de faire ressortir quelque chose, hein, de pouvoir produire quelque chose et de pouvoir aussi encourager ou bien soutenir ou bien instruire quelqu'un qui est à côté de vous parce que la parole est en vous. Et j'aimerais vous dire que l'idéal, c'est que plus le temps passe et... Bien sûr qu'on va toujours se référer à la parole imprimée parce que ça nous permet à tous de vérifier et de ne pas non plus passer à côté, mais plus le temps passe et plus la parole devrait demeurer en nous. À telle enseigne que lorsque nous sommes devant une situation ou lorsque nous sommes en train de parler avec quelqu'un, nous pouvons lui citer la parole sans avoir à chercher notre concordance pour dire « tiens, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet ?» Vous saisissez ? Et c'est ainsi qu'on fait planter la parole de Dieu dans notre cœur. Et ensuite, elle va sauver nos âmes. Donc, c'est vrai que je vous parle déjà d'aller aider quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, c'est la motivation aussi de notre vie chrétienne. Mais avant même d'aider quelqu'un d'autre, ça va sauver votre âme. Alors, sauver votre âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme sauver, la plupart du temps dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le terme sozo, S-O-Z-O. Et ce terme-là, il veut dire sauver, délivrer, protéger, guérir, préserver, rendre pur, restaurer. Vous savez, les mots grecs, ils ont beaucoup de signification. Et nous, on a mis sauver, et à chaque fois qu'on dit je suis sauvé, ou bien sois sauvé, les gens se disent oui, je vais aller au ciel un jour. Mais pendant ce temps, on a des difficultés dans notre âme, c'est-à-dire dans notre personnalité, et souvent on a des difficultés même avec notre corps, des difficultés physiques. Et pendant ce temps, pourtant, Dieu a prévu un plan de salut, restauration, guérison, rendre pur, restauration pour notre être tout entier. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil à 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, pour que vous soyez trouvés irréprochables lors de son avènement. C'est-à-dire que notre esprit, notre âme et notre corps doivent être, si on peut dire, impactés par le salut. Et je vous ai montré l'autre fois, donc à la nouvelle naissance, notre esprit est totalement sauvé. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes né de nouveau, votre esprit, maintenant, il est parfait. Il est totalement pur. Il est totalement compatible, si j'allais dire, avec la vie de Dieu. Il est totalement compatible avec une marche par la foi. Il est totalement agréable à Dieu. Parce que si vous ne le saviez pas encore, tout ce que Dieu fait est parfait. Et quand Dieu crée votre esprit, il l'a créé parfait. Maintenant, là où des fois on a des problèmes, c'est avec notre âme. Et c'est ce dont on va un petit peu parler ce matin. C'est pour ça que parfois les gens doutent de leur salut, ils se disent, mais je suis sauvé, puis, mais je fais encore certaines choses. Mais quand vous allez commencer à comprendre, il y a l'esprit, l'âme et le corps, et que vous allez commencer à faire ce travail concernant votre âme, vous allez voir que le salut va devenir beaucoup plus réel pour votre vie d'une manière globale, dans un point de vue complet. Donc, et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur quelque chose qui est intéressant, et dans la Genèse, on voit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis au verset 2, ça dit « La terre était informe et vide ». Et parfois, ça provoque un peu quelque chose dans l'esprit des gens. Parce que je viens de dire que Dieu fait toutes choses parfaites, mais on aurait dit qu'à la création, il a fait une terre informe et vide. Et si on regarde le texte original, et j'aime bien vous raconter des petites histoires comme ça, parce que ça vaut le coup quand même d'être observé. Non, on peut comprendre qu'il s'est passé un laps de temps entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Parce que la Bible déclare en réalité qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verset 2, c'est pas « la terre était informe et vide ». Le verset 2, c'est « la terre était devenue informe et vide ». Donc on peut comprendre qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Et je ne vais pas prendre le temps de tout développer avec vous, mais si vous lisez la parole, notamment dans les psaumes, il est question de la chute du diable. Parce que vous savez que le diable, au départ, c'était un ange de Dieu qui était donc au ciel, qui était dans la louange du Très-Haut, et qui, pour avoir voulu être semblable à Dieu, a été à un moment précipité sur la terre. Et on pourrait en déduire, je mets les conditionnels parce que on n'a pas tous les éléments pour l'affirmer, et comme je vous l'ai déjà dit, moi je n'établis pas une doctrine sans être 100% sûr d'avoir tous les éléments qu'il faut. Mais on pourrait comprendre que entre ce Genèse 1 et Genèse 2, ça aurait pu être le moment où l'ennemi a été précipité sur la terre et où dans sa colère il aurait détruit la première terre que Dieu aurait créée. Et ce qui fait que peut-être ça pourrait expliquer aussi certaines théories des scientifiques qui nous disent que ouais, la Bible c'est pas probable parce que c'est impossible que par exemple les dinosaures aient vécu en même temps que les hommes. Alors que si on lit la Bible, on voit que très rapidement dans la création, Dieu a créé l'homme. Mais pour peut-être, je dis peut-être, qu'on peut avoir une bribe de réponse ici. Peut-être que dans un premier temps, sur la Terre, il y avait peut-être les dinosaures et toutes ces choses-là qu'on nous raconte qui sont incompatibles avec l'homme, mais qu'ensuite il s'est passé des événements et qui ont fait que la Terre est devenue informe et vide. Et qu'ensuite Dieu maintenant a fait la création que nous connaissons aujourd'hui, qui nous est racontée dans la Genèse. Mais ça, c'est juste pour votre petite réflexion personnelle, vous à méditer, à réfléchir, à voir si vous recevez une conviction là-dessus. Pour ma part, je trouve que c'est recevable, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'en fais pas une doctrine, parce que pour établir la doctrine, il faut être sûr et certain, et il faut que la parole le dise clairement, et là, c'est pas dit clairement. Mais c'est une possibilité. Et à vous de, pourquoi pas, vous faire votre propre opinion. Comme disait quelqu'un, peut-être qu'au ciel, on aura les réponses. On demandera à Jésus quand on sera avec lui. Mais pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Mais pour revenir à notre sujet, donc si nous plantons la parole de Dieu en nous, à travers, comme vous l'avez dit vous-même, la lecture, la méditation, l'écoute de messages et d'enseignements, eh bien, nous allons voir qu'elle va commencer à travailler au salut de notre âme. Mais maintenant, il ne suffit pas seulement de la mettre en nous, il faut aussi aller un petit peu plus loin, et Jacques le dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc on voit là qu'il faut planter la parole en nous, mais il faut aussi la mettre en pratique. Et si vous avez bien suivi tous les passages que nous avons lus pour le moment, que ce soit Josué, que ce soit Psaume, que ce soit ici Jacques, il est question de méditer ou de planter la parole et de la mettre en pratique. Et dans les trois passages, il y a une promesse qui est assortie, tout ce que tu fais, tu réussis. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut commencer à faire ce qu'on veut, en disant, de toute façon, j'ai lu la parole, donc ça doit réussir. Mais ce que ça sous-entend, c'est qu'à un moment donné, tu vas être tellement plein, tu vas être tellement influencé par la parole de Dieu que tu as lu et médité, que ce que tu fais, en fait, ça reflète ce que la parole de Dieu t'aurait conduit à faire. Donc tout ce que tu fais te réussit parce que tout ce que tu fais va de plus en plus correspondre à ce que Dieu lui-même aurait fait ou à ce que Jésus lui-même aurait fait. Et tout ce que vous faites sur la base de la parole de Dieu va automatiquement enclencher la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la parole. Si vous lisez la fin des évangiles, Jésus envoie ses disciples en disant « Allez, faites de toutes ces nations des disciples, prêchez l'évangile, baptisez-les, il dit même de faire des miracles. » Et à la fin de l'évangile, il est marqué « Le Seigneur travaillait avec eux en confirmant sa parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. » Donc Dieu confirme sa parole. Et j'ai même envie de dire que Dieu ne peut pas faire autrement que de confirmer sa parole. Parce que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se produit. Et Dieu va confirmer sa parole dans ta vie. Donc si tu souhaites avoir une vie qui soit marquée par l'action de Dieu, si tu veux une vie qui soit entre guillemets confirmée, ou on pourrait dire approuvée de Dieu, eh bien le meilleur moyen, c'est que ta vie soit alignée sur la parole de Dieu, puisqu'il confirme sa parole. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose qui correspond à la parole, Dieu va confirmer sa parole. Et si peut-être il y a des choses qui sont compliquées, ou bien si, sans jeter de condamnation sur personne, mais si nous allons d'échec en échec, à un moment donné, il faut s'arrêter et se demander où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu dit que si tu médites ta parole et tu agis en conséquence, tu auras du succès. On ne peut pas accepter d'aller d'échec en échec. D'accord ? Et laissez-moi vous dire, si vous ne le saviez pas encore, que le problème n'est pas du côté de Dieu. Et de temps en temps, on a besoin de s'arrêter un moment et de dire où est-ce que j'en suis vis-à-vis de la parole de Dieu. Et est-ce que ma vie est vraiment fondée sur la parole? Est-ce que je suis vraiment en train d'appliquer la parole de Dieu? Et quand est-ce pour la dernière fois, est-ce que dans la parole de Dieu, j'ai trouvé quelque chose qui a changé quelque chose dans ma vie? Quand est-ce que pour la dernière fois, la parole de Dieu m'a vraiment parlé? Parce que des fois, on lit, on dit « Oui, mais j'ai lu ma Bible », mais est-ce que la parole a produit quelque chose en toi? Vous savez, quand Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il veut qu'elle accomplisse quelque chose. Et chaque jour dans notre vie, en lisant la parole, nous ne devons pas seulement nous contenter de dire « C'est bon, j'ai lu mes 5 minutes la Bible » ou « J'ai fait mon quart d'heure au pied de Jésus » ou bien « J'ai fait mon heure de prière » parce qu'il y a plein de petits systèmes qui existent qui peuvent être bons, ça peut nous aider, mais que ça ne devienne pas juste une habitude, que tu passes du temps dans la parole et que quelque chose en toi te soit communiqué par la parole de Dieu. C'est un pain quotidien. Et rappelez-vous l'image de la manne dans l'Ancien Testament. La manne d'hier, elle était plus bonne aujourd'hui. La manne d'hier te permet d'arriver jusqu'à ce matin. Donc on ne va pas non plus rejeter ce qui s'est fait hier. Mais ce matin, tu as besoin d'une manne fraîche pour aujourd'hui. Et ça, c'est à toi de faire la démarche d'aller la chercher. Celui qui cherche, trouve. Et cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Donc avant d'aller chercher comment faire pour régler mon problème, commence par chercher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il se trouve ici dans la parole. Parce que le royaume de Dieu, il est enseigné par Jésus. Jésus est venu annoncer le royaume. Et quand vous prenez l'enseignement de Jésus, et quand vous prenez l'enseignement du Nouveau Testament, vous voyez tout ce qui contribue ou tout ce qui correspond au royaume de Dieu. C'est comme si on avait ici le règlement intérieur du royaume de Dieu. On pourrait dire ça comme ça. Et quand vous cherchez là-dedans, que vous commencez à appliquer pour vous aligner sur les principes du royaume, eh bien maintenant, vous allez pouvoir vous qualifier pour le succès et pour obtenir les choses auxquelles vous aspirez. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Des fois, on dit « Oui, il faut que Dieu me donne quelque chose et après, peut-être que je vais pouvoir m'occuper de ses affaires. » Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, le salut de l'âme, il se fait au travers de la parole. Et si vous ne l'avez pas vu clairement, je vous le dis, ça demande notre participation. On doit travailler. On doit travailler. Vous savez, le salut, c'est l'œuvre de la grâce et on l'obtient par la foi. Ça nous amène, je répète, mais à la nouvelle naissance où nous sommes recréés parfaitement en esprit. Là, il n'y a rien à faire. Mais maintenant que notre esprit est recréé, nous devons prendre la décision et faire ce travail de maintenant travailler au salut de notre âme. C'est-à-dire de faire l'effort de prendre la parole, de la mettre dans nos vies et de la laisser nous transformer encore et encore. D'accord ? Donc méditer la parole de Dieu, c'est la lire, réfléchir, demeurer dans la parole. C'est aussi parler la parole de Dieu. Je vous rappelle, dans Josué, il était dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi ? De ta bouche, pas seulement de tes yeux. C'est-à-dire que ce que vous lisez de la parole ou ce que vous comprenez de la parole, non seulement vous le lisez ou vous le recevez, mais à un moment donné, vous commencez aussi à parler en conséquence de ce que vous avez lu. D'accord ? Parlez en accord avec la parole de Dieu. Parlez, plutôt que de parler ce qui ne va pas ou de parler les circonstances, eh bien parlez ce que dit la Bible, tout simplement. Et à mesure que vous travaillez votre pensée comme ça, vous laissez votre intelligence être renouvelée, eh bien, d'autant plus vous permettez maintenant à ces réalités spirituelles que vous avez obtenues par la nouvelle naissance de venir aussi se réaliser dans votre vie, on pourrait dire psychologique ou émotionnelle, et même dans votre vie physique. Alors jetons un coup d'œil dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc là, il nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, je reviens à ma question, comment on fait pour renouveler notre intelligence ? Eh bien, ça nous renvoie dans ce que Jacques nous disait. Travaillez au salut de votre âme, puisque l'intelligence, c'est du domaine de notre âme. D'accord ? Notre âme, c'est notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Donc, le renouvellement de l'intelligence, et si on voulait prendre un terme qui nous parle un peu plus aujourd'hui, renouvellement de l'intelligence, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le changement de mentalité. Et c'est un terme qui nous parle beaucoup plus dans les jours dans lesquels nous sommes. Eh bien, ce que l'apôtre Paul dit ici, et il ne dit pas « laissez Dieu changer votre mentalité ». Il dit « ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire que, bien sûr, l'œuvre, c'est Dieu qui l'accomplit, mais ça demande notre participation, notre démarche à nous. Je décide d'être transformé, de changer de mentalité, pour ne pas penser comme ce monde, pour ne pas penser dans une logique humaine, mais pour commencer à recevoir, entre guillemets, la mentalité de Dieu. Commencer à penser comme Dieu pense, commencer à parler comme Dieu parle, et commencer à agir comme Dieu agirait. Et comment faire pour savoir comment quelqu'un pense, comment quelqu'un parle ou comment quelqu'un agit? Eh bien, c'est d'être en communion avec lui, et c'est d'apprendre à le connaître. Et pour apprendre à connaître Dieu, nous avons sa parole. D'accord? Tout ça nous ramène à chaque fois à la parole. La parole. C'est de là que tout va jaillir et que nous allons maintenant généraliser le salut de notre esprit vers notre âme et notre corps. Ok, regardons encore dans Philippiens. Philippiens 4, au verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Donc là, on a des indications très précises et très claires. Ce dont nous devons faire l'objet de nos pensées, en fait. Hein? Donc là, en fait, il nous est montré, à travers tous ces passages, que nos pensées, nous ne sommes pas seulement appelés à les subir. Des fois, on dit « oui, j'ai des mauvaises pensées » ou bien « je suis attaqué dans mes pensées ». Oui, mais à toi de faire en sorte que tes pensées soient nourries de tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, qui mérite l'approbation et qui est digne de louange. C'est à toi d'y travailler. Comment on fait pour changer nos pensées ? Nos pensées sont influencées par ce que nous regardons, par ce que nous contemplons. Ce que tu regardes, ça va influencer tes pensées. Ce que tu lis, ce que tu entends, ça influence tes pensées. Et c'est à toi et à moi de faire ce travail pour choisir ce avec quoi nous allons influencer nos pensées. Vous savez que vous ressemblez à ce que vous contemplez. Nous ressemblons à ce que nous contemplons. Et la Bible nous le montre concernant notre relation avec Dieu dans 2 Corinthiens 3, 18, où il est dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc si tu contemples la face de Dieu, si tu contemples sa parole, si tu le contemples dans sa présence, tu vas commencer à être transformé en la même image. Waouh, quelle perspective! Alors, quelle image est-ce que nous reflétons? Moi, je vous laisserai réfléchir à ça. Hein. Qu'est-ce que je contemple? À quoi je veux ressembler? Et si vous arrivez à décider à quoi vous désirez ressembler, eh bien, maintenant, il faut commencer à contempler ce qui va vous rendre semblable à ce à quoi vous aspirez. Vous savez, on peut chanter ces chants, hein, qui sont certainement vous connaissez, qui sont bien connus, du style « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Et c'est une très bonne chanson, c'est une très bonne aspiration. Mais des fois, on chante ça, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême », mais on passe le plus clair de notre temps à regarder, des séries télé, ou à lire des journaux, ou à parler avec les gens de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est mauvais, et du mauvais esprit qui nous entoure, et de la mauvaise mentalité des gens qui sont autour de nous. Mais qu'est-ce que tu es en train de contempler? Comment veux-tu ressembler à Jésus si tu contemples le contraire à longueur de temps? C'est impossible. Okay? Donc il faut nous focaliser sur ce qui est notre objectif, en fait, de ressembler à Jésus. Donc voilà un petit peu pour le salut de notre âme. Hein, j'ai fait un petit parcours, brossé un petit peu, en général, comment travailler au salut de notre âme, et vous avez compris que tout part de la parole, et que nous avons notre responsabilité pour que ce processus maintenant se mette en marche. Dieu nous a sauvés parfaitement, mais nous avons à travailler à notre âme, à travers sa parole et à travers le temps que nous passons avec lui. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelques écritures quand même au sujet du corps. Au sujet du corps. Et Romains 12, l'apôtre Paul déclare « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc là, il nous appelle à offrir notre corps en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire que nous devons aussi partir d'une décision et d'une démarche, nous disons, je décide que désormais mon corps est une habitation pour Dieu. Désormais mon corps est en sacrifice pour Dieu. Je veux que mon corps reflète la vie divine dans laquelle je me suis inscrit désormais. Colossiens 3, au verset 5. Colossiens 3, 5. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres, et dans votre corps, est terrestre, à savoir la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, ce qui est une idolâtrie. » Donc là, il nous montre quelques exemples de ce qui dans notre corps ne convient pas à notre nouvelle nature, en fait, à notre nouvelle création en Christ. Et c'est à nous de faire mourir ces choses-là dans notre corps. Là, on nous dit, à vous, travaillez, faites mourir ce qui est terrestre. Vous savez, on peut prier le Seigneur de nous aider, mais Dieu ne va jamais vous enlever vos mauvaises habitudes à votre place. Il ne va pas le faire. C'est à vous de le faire, c'est à nous de le faire, de prendre cette position et d'assujettir, comme dit aussi l'apôtre Paul, notre corps. 1 Corinthiens 9. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on néglige un peu tout ce qui concerne le corps. On parle pas beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'écritures où il est question du corps. Et je dis que peut-être si on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que ce qu'il est dit du corps dans la parole, c'est pas tout à fait confortable. Parce que très souvent, quand on nous parle du corps, on nous dit, nous, de prendre nos responsabilités et d'agir, d'assujettir notre corps. Donc, 1 Corinthiens 9, au verset 27, l'apôtre Paul nous parle de lui-même et nous dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Donc nous devons tenir notre corps assujetti. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire du mal à soi-même, mais ça veut dire que nous ne devons pas laisser notre corps, ou plutôt nos attraits physiques, si on peut dire ça comme ça, nous influencer. C'est à nous de maîtriser notre corps. Romains 6, 13, je viens encore appuyer ça très clairement. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc là encore, il nous dit, ne laissez pas votre corps aller au péché, mais offrez-le à Dieu. Donc notre corps aussi est concerné parce que nous appelons souvent la vie spirituelle, mais en fait c'est tout notre être qui est concerné. Donc offrons nos corps à Dieu. 2 Corinthiens 5, au verset 1er, là Paul nous donne une explication intéressante sur le corps. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alors, il y a peut-être un langage qui peut paraître un peu compliqué, mais en simplement ce que l'apôtre nous dit ici, il dit voilà, notre corps, il le compare à une tente. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une tente, c'est quelque chose de temporaire. On n'habite pas dans une tente tout le temps. De temps en temps, on fait du camping, mais pour appuyer le fait que le corps, c'est simplement notre habitation sur terre, c'est notre réalité physique terrestre. Et lui-même, il dira que dans ce corps, il gémit. Parce qu'au fond, nous savons que nous avons une espérance plus glorieuse de pouvoir être transformés, revêtir un corps glorieux et puis rejoindre Christ dans sa gloire. Mais entre-temps, nous sommes dans ce corps. Mais là, il nous montre bien que c'est quelque chose de temporaire. Mais que nous devons faire en sorte que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire que comme le corps est temporaire, en plus, même si ça peut représenter une souffrance, d'assujettir d'une certaine façon notre corps, eh bien, mieux vaut souffrir un peu de temps dans ce corps en sachant que nous nous garantissons, entre guillemets, la vie éternelle où nous serons, entre guillemets, délivrés de ce corps. D'ailleurs, Paul ailleurs dira, si je pouvais être délivré de ce corps de mort. Paul était tellement conscient de sa nature spirituelle qu'à un moment il disait, mais ce corps, il me dérange, j'ai d'autres choses à vivre. Et c'est l'espérance que nous avons en Christ. Donc, notre corps, il ne s'agit pas... Encore une fois, je le redis parce que des fois les gens tombent aussi dans des excès de le négliger ou de le maltraiter. Mais il s'agit de ne pas laisser les attraits physiques nous influencer et nous attirer au péché, alors que notre esprit en nous est prédisposé à vivre en accord avec la volonté de Dieu. On a vraiment besoin de faire ce travail, de renouveler notre âme, notre intelligence, nos pensées, nos émotions par la parole, et maintenant aussi à nous de contrôler notre corps, si je peux dire ça comme ça. Parce que des fois, on se laisse prendre à tous nos petits souhaits, nos petits désirs, tous les petits attraits physiques, et hop, on fait des choses comme ça. Mais c'est pas ton corps qui doit dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est même pas ton âme, c'est même pas nos émotions, c'est pas nos sentiments qui doivent nous diriger dans la vie. Mais c'est notre esprit. Notre esprit qui est en communion avec Dieu, qui a été régénéré et qui a maintenant la nature divine, c'est lui qui doit décider, si j'ose dire. Et notre âme, nous devons la renouveler par la parole pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps agissent conformément à la pensée de Dieu et en conséquence bénéficient tous du salut et de ce que ça représente. D'accord ? Donc la nouvelle naissance, c'est le point de départ qui est spirituel. Mais maintenant, nous avons à continuer, si j'ose dire, à travailler à notre salut, celui de l'âme et du corps. Et je vous invite à regarder dans l'Épître aux Galates. Je vais quand même finir avec quelque chose qui va vous motiver et qui va vous encourager dans cette démarche. Galates 5, au verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc je reprends le verset 16. « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Très souvent, quand on entend des messages sur la sanctification, ou même sur des choses comme j'ai pu vous dire ce matin, on essaye de faire tous nos efforts pour combattre notre chair, on peut dire, ou pour essayer de ne pas reproduire les erreurs. Mais vais vous donner un indice ou une clé. Le meilleur moyen, ce n'est pas d'essayer d'y arriver par vous-même. Le meilleur moyen, c'est de chercher à marcher par l'Esprit. Et vous allez vous rendre compte que plus vous vous remplissez de la parole, et plus vous cherchez à marcher par l'Esprit, et plus les choses que vous faisiez hier et qui vous liaient, eh bien, de façon quasi naturelle, elles vont commencer à se détacher de vous. Parce que plus vous marchez par l'Esprit, et plus ce qui convient à l'Esprit va vous faire avancer, et plus ce qui ne convient pas à la marche par l'Esprit, eh bien, va se détacher de vous et n'aura même plus d'intérêt. Mais, et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai dit avant, pendant que vous essayez de lutter avec votre péché par vous-même, en fait, vous êtes en train de contempler votre péché. Mais au lieu de regarder votre péché, de vous concentrer sur votre péché, même si c'est dans l'objectif d'arrêter de le faire, commencez à contempler ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Commencez à contempler la vie nouvelle que vous avez reçue. Commencez à méditer sur comment marcher dans la victoire. Et je peux vous dire que le péché, là, vous n'aurez même plus envie de le faire. Ok ? Il y a un exemple très simple. Quand on allume la lumière, l'obscurité part toute seule. Et personne n'aurait idée le soir quand il fait nuit de commencer à dire « Que les ténèbres sortent pour que je voie mon chemin !» On appuie sur la lumière, quand la lumière s'allume, il n'y a plus de ténèbres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous aussi, quand vous faites grandir en vous la parole de Dieu et la marche par l'Esprit, eh bien tout ce qui convient à la chair maintenant va commencer à partir aussi. D'accord ? Et je termine avec ce passage dans 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4, et c'est ça que je voulais pour... comme motivation et comme encouragement de la part du Seigneur pour réussir dans cette démarche, dans ce salut de l'âme et du corps. 1 Jean, la première épître de Jean, pas l'évangile, 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ et le Fils de Dieu. » Et je vous rappelle que la semaine dernière, dans la nouvelle naissance, nous avons vu que naître de nouveau, en fait, la même expression, c'est être né de Dieu. Donc ici, on pourrait dire, tous ceux qui sont nés de nouveau triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, disait à ses disciples, « J'ai vaincu le monde. » Alors Jésus a déjà vaincu le monde pour nous, il a déjà vaincu la puissance du péché, il a déjà vaincu la puissance de la destruction, de la maladie, de tout ce qui peut nous porter préjudice. Et ensuite il nous donne cette exhortation et cet encouragement, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Donc en même temps que Dieu nous demande, et maintenant à vous de travailler pour sauver votre âme, pour vous renouveler, pour marcher en conformité, et pour que votre corps aussi ne soit plus celui qui vous dirige comme si vous étiez des simples bêtes, mais ben, on parle de la vie charnelle, mais que vous soyez dirigé par votre esprit et par votre intelligence renouvelée, il vous dit voilà, je veux que vous y travailliez, mais rassurez-vous, j'ai déjà vaincu. Et par votre foi, vous aussi, vous triomphez du monde. C'est pas une bonne nouvelle ça?
Amen.
Amen. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin et que je vous laisse à travailler et à vivre. Pas comme un exercice difficile, mais en fait comme entrant dans la promesse que Dieu nous a faite. Il a dit que nous triompherions. Donc simplement à nous d'en prendre le chemin. Vous savez, le combat, il a déjà été combattu et il a déjà été gagné et remporté une fois pour toutes. Et maintenant à nous d'aller rendre cette victoire réel dans notre vie personnelle. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.